9h27 à Rage Against le matin. Tu sais, il y a des moments dans la vie, il y a des gens que tu croises. Là, quand tu vois cette personne-là, tu dis, hey, je suis donc bien content de te voir. Puis ça, là, c'est. Tu le dis un petit peu peut-être à la légère, parce que dans le fond, tu le dis parce que tu n'as peut-être pas vu la personne depuis un petit bout. Là, il y a d'autres gens dans ta vie ou ton entourage que quand tu dis, je suis donc bien content de te voir, c'est parce que physiquement, cette personne-là a vécu quelque chose.
Ouais.
Puis t'es vraiment content de pouvoir l'avoir en personne. C'est le cas de notre ami Derek Blouin-Perry, qui est revenu pendant le temps des fêtes d'une autre mission en Ukraine. Vous le savez, on lui parle régulièrement. On lui a parlé avant son départ de cette mission-là, pendant la mission en direct là-bas, en Ukraine. Et maintenant, il est avec nous en studio. Donc, je me répète, mon ami, je suis vraiment content de te voir. Derek, bon retour au pays, au Québec, à Rage Against le matin. Merci d'être là.
Ben, bon matin à vous autres. Écoute, ça fait chaud au cœur de m'entendre. Pour vrai, je le sens sincère. Puis je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien de vous voir aussi, d'être là, de revenir.
Juste avant qu'on aborde dans tout le contexte, tu avais fait une promesse à ta famille avant cette autre mission-là en Ukraine de revenir pour Noël. Ça a-tu fonctionné? Puis là, si tout fonctionnait comme du monde, t'arrivais genre à minuit moins une, tu sais? Ça a-tu fonctionné? Étais-tu avec ta famille pour Noël? Ou?
Ouais, ben écoute, c'est une bonne façon de le voir. Tu sais, le minuit moins une, c'était un peu le résultat d'une difficulté. C'est-à-dire que, tu sais, c'est mon troisième séjour là-bas. Tu sais, j'y vais pour certaines raisons et c'est toujours difficile de revenir. Puis cette fois-ci, plus que toutes les autres, on va se le dire, mais. Dans ma tête, j'avais cette promesse-là, puis tu sais, je l'aime, ma famille. Je voulais être là pour Noël, puis c'est correct. C'est pas à contre-cœur, mais ça prenait un genre de balance. C'est-à-dire, je vais être là pour Noël, j'arriverai pas 6 jours d'avance pour me reposer. Je vais être là pour Noël, puis je vais arriver pour Noël pour le Noël. Plus possible. Sinon, je trouve ça dur un peu à vivre, de laisser les gens derrière en Ukraine, puis d'arriver. C'est toujours quelque chose qui est difficile. Puis comme je disais, ben, plus que chaque fois, cette fois-ci, ça a été difficile. Puis ça a été un retour vraiment compliqué au niveau logistique. T'sais, mon premier autobus a été annulé, le deuxième aussi, le troisième a été en retard. On a attendu plus de 20 heures aux douanes pour pouvoir traverser. Mon avion de retour depuis la Pologne vers ici a été retardé parce qu'il y a eu une tempête de neige à l'aéroport où on devait atterrir. T'sais. Moi, je le voyais comme plein de signes qui me disaient un peu « Non, non, mais regarde, reste en Ukraine, reste là, reviens pas, t'as des choses à faire, t'as de la job à faire, puis Noël, on le fera plus tard en janvier ou peu importe. » Puis, tu sais, j'avais vraiment ce gros conflit-là sur mon retour avant de mettre les pieds, puis d'arriver, puis là, de voir un peu son monde, puis de dire, ah ben, tu sais, finalement, OK, l'Ukraine, puis absolument l'Ukraine. Mais faut pas oublier qu'on a de la famille, puis qu'on a des gens ici là, qui pensent à nous aussi.
Puis qui t'aime bien, j'imagine, également. Là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es si attiré? T'es-tu posé cette question-là? Peut-être pas, mais si attiré à rester là-bas puis à aider? T'sais, c'est-tu parce que tu vois énormément de détresse là-bas? C'est quoi l'élément déclencheur?
Ben, c'est vraiment ça. C'est t'sais, le sentiment ou l'impression de pouvoir faire une différence. T'sais, je ne veux pas dire on cherche un sens à la vie ou peu importe. Je suis un aventurier de nature. Je fais plein de choses un peu à l'envers de tout le monde, puis c'est correct. Pourtant, je reviens d'Ukraine, puis la question qu'on me pose souvent, puis encore avant hier, j'ai rencontré une famille d'Ukrainiens qui viennent de Toronto, qui étaient à Québec pour les fêtes, puis ils me disent « t'avais-tu peur? » Puis « t'avais-tu peur? » J'étais à des endroits où les explosions sont assez fortes que les oreilles m'en cillent encore aujourd'hui. La réponse, c'est non, je broyais comme un bébé. De voir les gens là-bas dans cette détresse-là, dans cette misère-là, puis de se dire, ben écoute, j'ai-tu l'occasion d'aider, de faire un petit quelque chose de plus? Je peux-tu rendre leur quotidien meilleur? Je peux-tu faire une différence aussi petite soit-elle? Puis des fois, elle l'est, puis des fois, au contraire, on sauve des vies. Mais ce sentiment-là d'avoir la possibilité de faire quelque chose, de voir que les besoins sont immense, incalculable. Puis tu te dis, ben écoute, même si je travaille 23 heures par jour là-bas, ce qui n'est pas le cas, mais même si j'y allais jusqu'à mon dernier souffle, ça ne serait pas assez. Ça vient donner un espèce de sentiment un peu de, ben il faut que je sois là. Mm-hmm. Si je m'en vais, il n'y a personne qui prend ma place. OK, il y a d'autres bénévoles, il y a des ONG qui travaillent là-bas, il y a d'autres choses, mais les besoins sont en augmentant, puis l'offre est en diminuant. Donc, tu as vraiment l'impression que, écoute, j'ai pas le choix. Là. J'ai pris ce mandat-là, j'y crois, je vois ces gens-là, puis je vois la différence que je peux faire. Bien, écoute, si j'arrête, tu te revires en arrière, puis tu dis, OK, qui va y apporter qui à manger fait? Celle-là cette semaine? Ouais. Qui va soigner cette personne-là? Qui va faire ce transport-là? La réponse, souvent, c'est, ben ça sera toi, mais que tu reviennes une couple de mois.
Parle-nous de la différence, de l'évolution que tu as vue là-bas, sur le terrain, entre ton premier voyage mentor là-bas et celui dont tu viens de revenir.
Ouais, ben il y a eu quand même, on dirait, un petit peu une évolution en dents de scie. Hein. Tu sais, quand la guerre a commencé, tout le monde disait l'Ukraine, en 3 jours, c'est fini, ça n'existe plus. Finalement, ils ont toughé, finalement, ils ont eu des succès, finalement, tout le monde était de leur côté, les a appuyés. Cet élan-là, c'est peut-être un petit peu essoufflé, l'enthousiasme qu'on avait encore peut-être même au printemps quand je suis allé. S'essoufflait déjà, on pouvait le sentir. Et en étant là, ben, novembre, décembre, j'avais l'impression un peu qu'il y a un certain fardeau, c'est-à-dire que la Russie avance, tout est difficile. Le moral n'est pas le même et il y a beaucoup de gens qui sont au bout du rouleau. On m'a demandé un peu pendant que j'étais là-bas, bon, il y a eu l'élection américaine, Donald Trump qui rentre au pouvoir, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change? Bien, il y a des gens qui disaient, tant pis, on a déjà survécu sans avoir d'aide extérieure, ça fait des siècles qu'on essaie de survivre contre les Russes. Il y en a d'autres, au contraire, qui allaient dire un peu, ben, écoute, peut-être que ça va aider. Pas nécessairement qu'ils le croient, mais parce qu'ils sont à bout de solution. J'ai fait une livraison sur un village en banlieue de Toretsk, là, qui est vraiment sur la ligne de front. Là. À ce moment-là, on était à quelques kilomètres des combats. Ça veut dire que les canons d'artillerie sont derrière nous d'un côté, puis devant nous de l'autre côté. On est entre les deux. Et tu vas voir des gens là-bas qui ont 70, 80 ans, tu leur parles, puis tu essaies de jaser, de communiquer. On n'a pas le droit d'être là très longtemps, veux pas, ça fait une cible, mais tu essaies d'échanger, puis ils te disent, ben, on veut la paix. Rendu là, on n'a plus d'espoir en l'avenir. La moitié du village est mort. Les gens sont partis. Il n'y a plus rien. On veut que ça arrête. On veut qu'il y ait la paix. Puis ça sera ce que ça sera. Donc, vraiment, c'est un désespoir qui est vraiment frappant.
Hey Derek, pour les gens qui sont peut-être nouveaux, nouvelles à l'antenne, qui auraient peut-être manqué la discussion qu'on a eue avant ton départ pour cette autre mission-là en Ukraine, qui auraient manqué quand on a jasé en direct avec toi aussi, rappelle-nous tes principales tâches là, cette fois-ci pendant la mission. Qu'est-ce que tu as fait là-bas pour aider?
Ouais, j'ai divisé ça en deux grands projets. Le premier, j'ai été travailler sur des ambulances dans la région de Pokrovsk. Je suis pas ambulancier de métier. Au mieux, premier répondant en région isolée, guide de touristes d'aventure et instructeur de premiers soins. Donc, clairement, sous-qualifié pour la job. En même temps, quand il n'y a pas grand monde, ben, je pense qu'il accepte un peu ces travers-là en se disant...
Ouais, t'as quand même une base avec les premiers soins.
Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il était prêt à accepter ça. Puis finalement, on voit que les besoins étaient là aussi. Il aurait bien aimé ça avoir des médics de combat retraités de Valcartier ou peu importe pour aller faire la job. Mais ce qu'il y avait, c'était un gars qui fait des premiers soins, puis écoute, ça va être ça. Et ben, les besoins étaient là. C'est-à-dire qu'on travaillait nuit et jour. Dans l'ambulance, c'était pas un patient, c'était 3, puis c'était 4, des fois c'était 5, la moitié de bout en arrière, puis go, faut qu'on sorte, faut qu'on s'en aille. Donc, un mois sur ce volet-là un peu plus médical et un autre mois sur des livraisons d'aide humanitaire, de l'organisation, de la logistique. Donc, vers des écoles, entre autres, dans la région de Kherson. C'est des enfants qui habitent dans des régions frontalières au combat qu'on imaginerait avoir déjà évacuées, puis que finalement, non, ils sont encore là-bas. Mais leur école a été bombardée, a été détruite, et ils ont fait le choix de les faire étudier dans des abris souterrains. C'est une demande qu'on avait reçue d'apporter des cahiers, des livres, des crayons, des choses pour les aider un peu dans leur réussite scolaire. Et on faisait ça en coopération avec la police locale. Mais là, c'est une affaire. Tu arrives là avec les policiers qui sont souvent là pour nous escorter, mais là, ils sont aussi là pour donner une formation aux enfants sur comment reconnaître les mines, les bombes, les autres objets qui sont à terre autour de l'école. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous ramène à une dure réalité. C'est nous autres, nos policiers, quand ils vont à l'école, ils disent quoi aux enfants?
Ouais, ils disent fais attention aux photos que tu vas transmettre dans ton cellulaire, ouais, parle pas de bombes.
Même juste à la base, fais attention quand tu traverses la rue puis traverses aux bons endroits.
Exactement.
Là, c'est un PowerPoint avec des obus, des choses comme ça. Puis si c'est lui, fait ça, puis si c'est celle-là, appelle à telle place, puis c'est Ah, c'est désolant.
Écoute, tu m'en parles, j'ai les frissons, puis tu me le dis si je pousse trop loin, mais t'es, les militaires, quand ils reviennent de mission, des fois, là, ça, t'es, mentalement, c'est très difficile. Ils ont besoin de suivi, ils ont besoin d'aide. Toi, comment va ton mental?
J'étais un petit peu... Je pense qu'au niveau de la... T'sais, on commence à avoir une habitude à chaque fois qu'on revient, on voit un petit peu des patterns. Là. Je sais, quand je suis revenu au mois de mai, ça a été difficile au niveau de la... Des choses qu'on réalise pas à première vue, des choses au niveau de la patience, de la communication, au niveau de bien des affaires qui... Je m'en rends compte après coup, c'est dur à dire. J'ai un petit peu l'impression, bon, quand je reviens, ma stratégie, c'est la fusée en avant. Là. J'ai travaillé tous les jours depuis que je suis arrivé, j'ai pris une journée off, puis je l'ai travaillé sur d'autres choses. Avec ça, en me disant, regarde, je vais pelleter par en avant, puis quand je vais être capable, je vais y aller. Je me sens un petit peu à cran par rapport à ça, puis je m'attends à ce que ça fasse un petit peu comme les autres fois. J'étais allé voir cet été un show à l'Agora, Québec Redneck. Le show commence par une sirène aérienne.
Ouais, ouais.
Tu sais, ça allait bien jusque-là.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Sauf qu'à ce moment-là, ça allait plus. C'est dur à dire là comment ça va aller. Je dors pas super bien. Je veux pas pousser là-dessus. Mettons que je comprends quelque chose que j'aurais pas pu comprendre avant d'avoir été.
Ouais.
Autant la différence d'intensité que ce que tu vois là-bas, que ces choses-là. Puis en même temps, je veux pas m'apitoyer là-dessus. C'est un choix conscient que j'ai fait en y allant. Puis un choix qui, je pense, valait la peine.
Ouais.
Donc, c'est pas une mission qui est pour moi, c'est une mission qui est pour les gens, puis ça sera ce que ça sera. T'sais, mon coût personnel, je l'assume. Puis...
Derek, tu es allé une couple de fois là-bas aider les Ukrainiens dans cette situation-là. Tu as vu comment ça se passe. T'as-tu une haine, avec tout ce que tu as vu, vécu, t'as-tu une haine envers la Russie? T'as-tu une haine envers les Russes?
Bien, c'est sûr que... T'sais, mon engagement à la base, il est surtout humanitaire envers les gens qui sont là-bas. J'ai des opinions politiques par rapport à ça, c'est certain. T'sais, la Russie peut arrêter cette guerre-là demain matin. Elle a juste à dire, on arrête d'envoyer des bombes sur les écoles, on arrête de faire exploser des centres d'enfants qui ont le cancer, on arrête de faire brûler des églises pour le plaisir, on arrête de chasser des civils avec des drones. Les preuves s'accumulent sans arrêt à chaque jour de frappes sur des travailleurs humanitaires, sur des centres médicaux, sur toutes ces choses-là. Ça, c'est documenté, on le sait, c'est connu. Après mon travail là-bas, je ne suis pas un soldat, je ne vais pas tirer sur du monde. Je vais essayer d'aider comme je peux. Puis, je pense qu'il faut que je m'en tienne à ça aussi de mon côté. Quelle différence d'un point de vue humanitaire on peut faire, puis qui on peut aider du mieux, du plus efficacement possible.
À chaque fois que tu es revenu d'une mission puis on s'est parlé, je te pose tout le temps la même question. C'est toujours une discussion remplie d'émotions, mais on dirait que je te pose toujours la même question en terminant. Tu travailles-tu en ce moment en préparation d'y retourner bientôt pour une autre mission?
C'est sûr que oui. J'ai pas encore arrêté les dates. J'ai des questions au niveau du travail, des choses comme ça qu'il faut que je réponde. Déjà, je suis parti un peu souvent, fait qu'il faut que je réponde à ça. Mais ça, c'est sans aucun doute. Là, j'y vais dès que c'est possible pour le plus longtemps possible. Là, la même chose en tête. Là.
Derek Blouin-Perry, merci tout d'abord depuis le début de notre rencontre, de nos discussions, de venir partager. Je sais que c'est fait avec beaucoup d'émotions. Ça vient chercher quelque chose de très profond en toi. Merci de venir partager ces expériences-là avec nous avant, pendant et après. Et je vais finir comme j'ai commencé la jasette de ce matin, puis quand on s'est vu en personne. Content de te voir, mon chum. Content de te voir sain et sauf. Et encore une fois, très apprécié. Merci de venir partager cette autre mission humanitaire en Ukraine.
Ben, un gros merci à vous autres, comme d'habitude, dans l'occasion de garder les Ukrainiens dans la tête des gens, de ne pas oublier que ces gens-là, ça fait des années qu'ils subissent cette guerre-là, donc c'est encore d'actualité.
Merci, Derek.
Merci, Derek. Boulevard 102.